David Etegui est avec nous. David, comment vas-tu?
Comment ça va, David?
Comment ça va, les gars?
Très bien, David. Surtout quand on te parle.
Merci.
David, pour commencer, David, à quel point ce statut de la saison avec 13 matchs qui restent, le classement dans l'Est, le Canadien qui se maintient encore au troisième rang, est impressionnant pour toi?
Ben, c'est impressionnant. C'est la continuation de la superbe saison qu'on a. Ça avance d'année en année. On est en train de voir les Canadiens à 88 points déjà. On s'en va vers une saison de 100 points. Puis, les amis, le chiffre magique, c'est vraiment 100 points. Ça va prendre ça pour faire les séries, pour les Canadiens de Montréal. Ce qui les avantage, sincèrement, c'est le fait qu'il y a tellement d'équipes qui sont proches. Les gens pensent que c'est un désavantage, mais au contraire, c'est un avantage. Il y a plusieurs de ces équipes qui vont jouer l'un contre l'autre d'ici la fin de la saison. C'est sûr qu'une de ces trois, que ce soit Boston, Détroit, Ottawa, c'est sûr qu'il y en a une qui va moins bien jouer que l'autre. Donc, ce qui permet aux Canadiens presque de s'assurer une participation aux séries avec 6 victoires dans les 12 prochains matchs. Je pense qu'il reste 12 matchs aux Canadiens. Donc, en théorie, ça devrait être 500. Tu joues 500, tu vas chercher 100 points. C'est le chiffre magique. Ce qu'il faudrait que Ottawa et Détroit, même qu'ils aient cherché 7 victoires dans les 11 dernières parties, ça, c'est pas 100 points, c'est 98, 99 points. Donc, les Canadiens ont besoin de 6 victoires. Donc, ils sont bien positionnés, super contents pour eux. Il faut que ça continue.
Maintenant, David, il y a Coupe d'Aubèche. On a vu le dernier match. On voit la séquence également. Puis, on a regardé également ces statistiques depuis l'arrivée de Marco Marciano et on voit que ça aussi, c'est à la hausse et pas à peu près. Est-ce que tu es surpris de ces performances et du fait que ça a encore pris du galon depuis l'arrivée de Marco Marciano?
Non, je ne suis pas surpris. J'étais, je pense, le premier ou le deuxième à demander à ce que Marciano vienne ici un mois et demi avant qu'il arrive à Montréal. Je voulais qu'il vienne. En réalité, je suis content qu'il est venu. Puis on le voit sur Daubèche, on le voit sur Fowler, la différence que ça fait, mais certainement Daubèche. Daubèche, c'est vraiment trois choses sur lesquelles il a travaillé. Calme et positionnement, on sait qu'avant ça, Daubèche était tout partout. Il gaulait à la hachette un peu, c'était compliqué. Là, on le voit beaucoup mieux couvrir ses angles. Il laisse la rondelle le frapper un peu plus. La gestion des rebonds, c'est une autre affaire que Marciano a travaillé très fort avec lui. Puis on peut voir qu'il redirige mieux ses rebonds. Qu'est-ce qu'il faisait par avant? Il contrôle mieux la rondelle, donc il donne pas des deuxièmes et troisièmes chances. Et aussi, dans la tête, le travail qu'il a fait avec lui au niveau de « Écoute, tu donnes un mauvais but, oublie ça, puis passe à autre chose. » On avait vu Daubèche dans le passé avoir de la difficulté lorsqu'il donnait un mauvais but ou quand c'était dur pour lui de revenir. Et là, on voit qu'il est beaucoup plus fort. Il peut donner un but qui laisse à désirer, mais il revient tout de suite et automatiquement, il se rattrape. Et ça, c'est les trois points qu'on ne voyait pas avant l'arrivée de Marciano. Vraiment, c'était des lacunes de chez Daubèche. Et là, à l'heure actuelle, on voit que c'est ce qui fait. Ces trois points font que là, il devient encore un meilleur gardien que ce qu'il était, ce qui fait qu'il y a du succès à l'heure actuelle.
Là, David, avec Daubèche qui a dit à l'équipe qu'il ne voulait plus rencontrer les médias après les matchs, qu'est-ce que tu penses de sa décision, sachant à quel point pour lui, comment que les médias, ça l'affecte mentalement? Puis en même temps, c'est quoi le rôle de l'agent dans ça? Parce que peut-être que, selon toi, il a contacté son agent avant de prendre cette décision-là. Puis comment tu penses que la Ligue va intervenir, à ton avis? Parce que tu sais que des fois, quand il y a des précédents qui se créent, des fois, il y a d'autres joueurs qui pourraient suivre l'exemple.
Moi, j'ai haï ça lorsque j'ai vu ça. J'ai haï ça. Puis je sais pas si vous vous souvenez, les boys, mais quand il avait pleuré sur la caméra après une défaite, là...
Ouais.
Je vous avais dit, le lendemain, je pense que j'étais en chronique, je vous avais dit, les gars, c'est horrible ça. Ça va mal, les joueurs vont rire de lui, il va se faire taquiner, il est faible psychologiquement, c'est un problème. Et là, avec ça, j'aime vraiment, mais alors vraiment pas ça. Et la réalité, elle est quoi? Si c'est temporaire, j'ai pas de problème. On n'a pas tous les dessous de ce qui va arriver. C'est clair que les Canadiens de Montréal vont devoir travailler avec lui, psychologiquement, pour s'assurer qu'il est capable de parler aux médias éventuellement. On va faire attention à qui il parle, quand il parle, comment il parle. Mais le gars doit parler aux médias ou il doit sortir de Montréal. C'est clair et c'est net. Ce gars-là ne peut pas être le gardien de Montréal pour les 15 prochaines années ou les 10 prochaines années s'il ne veut pas parler aux médias. Ça, c'est un. Il faut qu'il dégage. À ce moment-là, tu l'envoies dans un marché comme, je ne sais pas, Columbus. Même Columbus, c'est déjà passé, mais il y a d'autres marchés Saint José peut-être, ou même à Tampa, ou peu importe, où le gars, il y a trois membres des médias dans un scrum. C'est même pas un scrum. Là, tu l'envoies là, puis là, il peut dire « j'ai pas envie de trop parler ». Mais t'es un gardien des Canadiens de Montréal. T'es obligé de parler aux gens, il n'y a pas d'option. Puis comme agent, je dirais « mon vieux, je comprends que tu as des problèmes, il faut qu'on on te trouve de l'aide. » OK?
Ouais.
Puis si on n'est pas capable de te la trouver, il faut que je te sorte de ce marché-là. Parce que quand on est un pompier, je peux pas dire « moi, j'ai envie d'être un pompier, mais j'ai peur des échelles. » OK? Quand t'es une personnalité publique, t'es un joueur de hockey, t'as une obligation de communiquer avec les amateurs et avec les partisans. T'as pas le choix, sinon tu dois pas être un joueur de hockey. C'est aussi simple que ça. Et la Ligue nationale n'accepteront jamais ça. Parce que s'ils ouvrent cette porte, ça de grand, Georges, tu le sais,
ouais, je sais.
90%,
ben
90% des joueurs ne veulent pas parler aux médias.
Exactement.
Mais on les oblige à parler aux médias.
Exact.
Là, tu vas ouvrir une porte, moi je vais arriver, puis je vais dire, j'ai des problèmes psychologiques. J'ai du mal, je veux plus parler. Et là on va se retrouver avec 50% des joueurs qui vont sortir cette excuse-là, OK? Et là, il n'y a plus personne qui va parler aux médias. Ça n'arrivera jamais. La Ligue nationale vont sortir d'auberge de la Ligue s'il faut avant d'ouvrir cette porte. Il faut absolument qu'on trouve un moyen chez les Canadiens de Montréal, si on aime le joueur, de l'encadrer, de l'aider, de lui donner du soutien psychologique.
Exactement.
Juste que les gens comprennent.
C'est difficile. Le gars a pleuré, donc on sait qu'il ment pas, le gars, c'est dur pour lui. Mais
ils vont l'accompagner. Ils vont l'accompagner là-dedans, puis il sortira pas. Tu sais, quand il va sortir, il sortira pas souvent.
Tu sais, David, pour appuyer sur ce que tu dis, qu'on va en parler plus tard, mais pour que les gens à la maison comprennent, parce que là, il y en a qui, je regarde les commentaires qui comprennent pas, les médias donnent des millions, des centaines de millions en publicité gratis à la LNH, et ils ont besoin des médias pour les droits de télé puis pour tout ce qui vient avec. C'est pour ça que dans le travail qu'on fait, puis même quand on signe un contrat, dans nos contrats qu'on signe que les joueurs font des millions, c'est dans nos contrats que c'est une obligation de devoir parler aux médias. C'est dans tous les contrats qu'on signe. Fait que les gens comme un immortel qui nous écoutent en ce moment, qui ne savent pas ça, je vous l'explique comment ça fonctionne.
On l'explique en ouverture d'émission. Les journalistes font des demandes et pour avoir des joueurs en entrevue. Après, quand le joueur refuse, il faut qu'il y ait une raison aussi avec l'équipe.
Dans les contrats qu'on signe, Big, c'est écrit.
Ça aussi, ouais,
c'est une obligation qu'on signe.
Il y aura pas, mais pour clore ce sujet-là, ce que je vous dirais, si je suis son agent, je vais dire, écoute, Jacob, je comprends la situation, je sais que c'est un challenge. On va essayer de travailler avec les Canadiens. Je vais parler à Chantal Maccabée. Je vais lui demander, écoute Chantal, comment est-ce qu'on peut, lui rendre ça plus facile, le soustraire,
l'accompagner. Ben ouais,
oui, l'accompagner. Fais-le parler seulement quand il y a une victoire, pas quand il y a une défaite. Fais des choses comme ça, OK? Et puis ça va marcher. Et si on voit que ça marche pas, ben là je vais demander aux Canadiens de Montréal de t'échanger dans un marché qui sera beaucoup moins lourd pour toi. Donc ça, c'est ce que je dirais à mon joueur pour répondre à la question. Je vais l'encadrer. Mais d'une autre manière, est-ce qu'il peut? Impossible. Il est obligé de parler aux médias. Même ailleurs, il serait obligé. Peut-être pas au même niveau. Et ça, c'est vrai que je rouvre une parenthèse là pour les joueurs francophones qui voulaient jouer pour les Canadiens de Montréal dans les 25 dernières années et qui ne voulaient pas venir à Montréal. Ça, c'était la raison principale. Pourquoi? Parce que ils devaient parler dans tous les scrums étaient autour des joueurs francophones. Donc, c'était des joueurs marginaux souvent. Mais en réalité, ils n'avaient pas envie de parler après toutes les games, eux. Donc, les joueurs n'aiment pas ça, parler aux médias, c'est rare. Mais c'est une obligation, ils doivent le faire jusqu'à un certain degré.
Oui, c'est dans leur contrat. Et il faut nuancer également. Je lis quelques réponses puis qu'ils n'en reviennent pas de ce qu'on dit. C'est pas de l'acharnement, c'est pas contre Dobège du tout. C'est un gars qui, on l'a expliqué, c'est au niveau où il aime pas ça parce que ça le rend nerveux. Puis comme je dis, moi, je suis d'accord, le Canadien de Montréal va l'accompagner. C'est pas le premier athlète qui dit qu'il veut plus donner de disponibilité médiatique. On l'a vu dans d'autres sports également. Puis en 2026, on accompagne des athlètes différemment que dans les années 80. Puis tu sais,
quand je vois à Montréal,
ça évolue.
Quand je vois à Montréal pendant 2 ans, là, après les pratiques puis les games, les joueurs se dépêchaient de se débattre
ben oui, sûr.
Pour sortir avant que les médias rentrent. Big.
George,
tout le monde
George, qui c'est qui restait dans le vestiaire?
Moi.
C'était toi, c'était Bégin.
Eh oui, moi, Bégin, Lapierre.
C'est Mathieu Lapierre.
Ouais.
Les francophones ne sont
pas là.
C'est les francophones.
Exact.
OK, fait qu'en réalité, les gars, là, il faut qu'on se calme. C'est des gars qui font des millions. Calmez-vous, là, à la maison. En réalité, Le gars, il doit parler aux médias. Il faut le protéger, il faut l'encadrer. Vous avez la meilleure VP de toutes les communications, à mon avis, dans la Ligue nationale, en Chantal Maccabée. Elle est humaine, elle va l'écouter, elle va l'aider,
oui.
elle comprend la réalité. À la fin, il faut s'assurer que le gars soit capable de parler. Maintenant, si c'est pour un mois, j'ai pas de problème, on va lui donner du loose, mais il va falloir l'encadrer. Et si c'est pas possible, j'en veux pas au joueur. Tu l'envoies dans un autre marché. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas le choix. Mais c'est sûr et certain que les gens, ils doivent communiquer. Écoutez, Maurice Richard, la plus grande vedette, à mon avis, de l'histoire des Canadiens de Montréal, qui était un super introverti, dans les années 40, trouvait le moyen de parler aux médias. Donc, je vois pas d'aubèche dans un temps d'Internet et d'Instagram pas vouloir parler aux médias. Impossible.
Ah non, puis regardez, là, de toute façon, avec l'approche des séries éliminatoires, c'est correct. Là, c'est...
Ouais, c'est de parler dans des victoires, pas dans des défaites, c'est tout.
T'sais, on verra. C'est un dossier à suivre et comme tu dis, David, ouais. On va bien l'accompagner, bien l'encadrer pour de l'exposer aussi. Dans la vie, quand tu as peur de quelque chose, c'est important de t'exposer et pas de fuir parce que ça va accentuer aussi. Fait que je pense qu'il est entre clair. De bonnes mains avec le Canadien de Montréal.
Oui.
Hey,
oui.
David, on reste chez les gardiens de but. Celle-là, wow! Qu'est-ce que tu as pensé des propos de Carey Price sur Jacob Fowler? Pour les gens qui ne l'ont pas entendu, là, on le fait-tu jouer? Parce que non, on ne l'entendra pas, David. En fait, on va le faire jouer un peu plus tard, là, mais Price a dit que le gardien qui lui faisait plus penser à lui, plus jeune, c'était Jacob Fowler.
Il y a des différences, hein, Stéphane. Je suis d'accord. D'abord, j'étais surpris que Carey dise ça. C'est pas son style d'encenser les gens. C'est pas du tout le style à Carey. Mais si Carey l'a dit, c'est qu'il le pense sincèrement. C'est clair qu'au niveau de la maturité, un peu le style de jeu, le calme, ça me rappelle beaucoup Carey. Moi, je connais Carey depuis tellement longtemps. Il était notre client pendant des années jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Mais en réalité, c'est pas tout à fait le même gardien. Fowler est un peu plus petit. Il est 6 pieds 1. Carey était 6 pieds 3. Fowler, c'est plus un gardien actif. Il a un positionnement, il est très bon avec son style, mais il est actif, il va challenger un peu plus. Carey, c'était un passif. C'était un gars de positionnement, il laissait la rondelle le frapper constamment. Carey, on savait l'air facile parce que la rondelle le frappait. C'est un style passif. L'autre, il est un peu plus actif, mais je pense que les deux se valent. Okay? Carey, il a toujours été reconnu comme le meilleur gardien à tous les niveaux d'âge. Fowler, c'était pas du tout ça. Fowler, à chaque étape, il a été obligé de prouver qu'il faisait partie qu'il pouvait être le meilleur. Donc, ils n'ont pas eu le même cheminement, mais dans l'ensemble, ça ressemble un peu le style, surtout quand il parle aux caméras, comment il encense ses coéquipiers. Ça me rappelle beaucoup Carey, toutes ces choses-là. Donc, je vais pas m'obstiner. Je vais emboîter le pas versus ce que Carey a dit, mais dire qu'il ressemble quand même beaucoup.
Toujours la conversation avec David. David, on a parlé des gardiens. Dû au succès de Dobesch, OK? Parce que là, Dobesch va très bien dernièrement. Clairement, il est numéro un. Quel Canadien va être dans sa fenêtre pour gagner la Coupe Stanley, selon toi? Qui va être le gardien numéro un? Parce que cette question-là, on sait que pendant des années, David, on disait que c'était Fowler. Mais avec comment Dobesch joue en ce moment...
Comment mettre de l'huile sur le feu?
Quand ils vont être prêts à gagner, selon toi, qui va être numéro un?
Hey, les gars, les choses avancent vite, puis... On s'est parlé, je pense, la semaine dernière, puis vous m'aviez dit « Qui sera le gardien partant le premier match des séries pour les Canadiens? » Puis j'avais dit « Dobesch ». Puis vous aviez dit « Oh oui! »
C'est vrai,
c'est là, une semaine après, on est en train de parler « Dobesch, le gardien des Canadiens, quand ils vont remporter la Coupe Stanley. » Maintenant, moi, ce que je vous dis, les boys, c'est clair. Premièrement, j'avais fait une prédiction il y a 4 ans déjà, si vous voulez, en ondes. Au 91-9 dans le temps, j'avais dit les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley en 2027-2028, en 2027. Et je le crois encore, j'ai pas changé d'idée. Là, je pense que l'année prochaine déjà, avec ce que les Canadiens vont faire comme ajout cet été certainement, je pense qu'ils vont déjà être dans la fenêtre l'année prochaine. Donc, je pense que la question que tu me poses, c'est qui peut être mon gardien numéro un l'année prochaine dans les séries? Et à première vue, je pensais que ça serait possiblement Dobesch la première année. Mais je pense que dès l'année suivante, ça va être Fowler, pour les raisons que Carey Price a dit. Et ça me rappelle beaucoup un peu Halak, Price. Ouais. Ça me rappelle beaucoup ça. Deux très bons gardiens.
Hey, imagine, David, si Dobesch se met à gagner en série, là, ça peut devenir quelque chose de pas problématique, mais je veux dire, ça va ajouter aussi à sa saison puis à ce qu'il est capable de faire, tu sais.
sais, Stéphane, si tu donnes 35 parties à Fowler l'année prochaine, et t'en donnes à peu près 47, 48 à l'autre, là, comme gardien numéro 1, puis que Fowler te joue à une moyenne de 1,98 avec 920 dans le pourcentage d'arrêt, tu fais quoi?
Ah ouais,
t'as deux gardiens. Tu fais quoi? Ouais, fait que là, tu dois.
Tu continues le développement. T'as deux jeunes.
Oui, tu vas le faire tant si longtemps que ton cap salarial te permet de le faire. Et la réalité, c'est que les Canadiens n'en auront pas de problème de cap salarial avec tous les joueurs, le noyau qui a été signé. Ils n'en auront pas de problème. Donc, ils peuvent avoir le luxe d'avoir deux excellents gardiens. Maintenant, moi, ce que je pense, si on parle des 10 prochaines années et qu'il va faire partie de la dynastie des Canadiens, si on appelle ça une dynastie, où ils peuvent peut-être remporter deux Coupes Stanley dans les 10 prochaines années, ou peut-être trois, ou une finale de plus, je pense que ça va être Fowler qui va faire partie de cette grande équation. Ouais. OK? Mais pour le moment, je pense que Daubech, dès l'année prochaine, possiblement, ça sera lui, à moins d'un effondrement. Et tant mieux pour les Canadiens si les deux sont capables de bien performer.
OK, David, maintenant, il est tôt encore, mais là, le match de Demidov en a excité plusieurs, puis sa saison également. Et hier, on s'est mis à parler un peu de son prochain contrat. Et là, on est très curieux parce qu'on t'a avec nous, puis c'est parfait, faut profiter de cette expertise-là. On a vu le Canadien de Montréal signer Lane Hutson un an avant, parce que c'est possible de le faire dans cette fenêtre. Ça a pris un peu de temps de négociation. Pour Demidov maintenant, il faut dire aussi pour les gens à la maison que le 8 ans va être possible jusqu'à une date butoir. Là. Donc, si le Canadien est très trop longtemps, le prochain contrat de Demidov va être juste 7 ans et non 8 ans. Est-ce que tu vois le Canadien le signer à 8 ans rapidement et tu t'attends à quoi comme montant? On est curieux, même si ça reste encore beaucoup de hockey à jouer, là, mais tu t'attends à quoi comme contrat pour Demidov?
Bon, premièrement, je veux juste dire que le 8 ans est à l'avantage des Canadiens de Montréal et pas nécessairement à l'avantage de Demidov. Je pense pas que Demidov aurait un problème à signer 7 ans.
Non, le Canadien va vouloir.
C'est le Canadien. Ah ouais. C'est le Canadien qui va vouloir 8 ans. Donc, on sait que les Canadiens vont faire un pitch de 8 ans cette année. OK? Maintenant, la réalité, elle est quoi? Lorsque vous voulez savoir comment est-ce qu'un joueur va signer, vous devez toujours aller regarder qui le représente, quelle agence, et de quelle manière ils négocient leur contrat. Et c'est souvent du copy-paste. Ils sont à l'aise dans une certaine zone. Ils le présentent d'une certaine manière à leurs clients. Si on regarde dans le cas de Demidov, c'est Dan Manstein qui est son agent.
Ouais.
Et lui, il y a des joueurs, il y a Kucherov, que tout le monde connaît naturellement, un des trois meilleurs joueurs au monde. Il y a Marchenko, il y a Protas à Washington, il y a Barbashev à Vegas. Et si vous regardez le pattern de ces trois joueurs que je viens de vous nommer, je parle pas de Kucherov, c'est du 3 ans, 5 ans, 5 ans. C'est un gars qui a pas de problème à signer ses jeunes sur un bridge allongé de 3 à 5 ans. Il n'y a pas de problème à faire ça.
Kucherov l'avait fait, David, rappelle-toi. Kucherov avait signé un 3 ans à Tampa Bay.
Oui, mais par la suite, il a signé 8 ans
exact.
À 76 millions en 2018.
Ouais.
Et c'est là que je veux apporter l'attention des gens à la maison. Et c'est là que je m'en vais. C'est que pour nous, on sait que le profil de Demidov, c'est Kucherov. C'est le profil. Les Canadiens ne font pas cacher. OK? Quand ils l'ont repêché, La Pointe, et puis il parlait de lui comme quoi que waouh, ça peut être une superstar, il n'y a pas de problème. Il rappelle Kucherov. Donc moi, ce que je pense, c'est que à la différence que Kucherov sortait d'une saison de 100 points lorsqu'il a signé ce contrat-là, Demidov va rentrer dans une négociation avec 60 points dans une année recrue, possiblement deuxième ou troisième au Calder. Donc moi, ce que je pense, c'est que les Canadiens vont dire écoute, on veut signer 8 ans, on va lui donner plus que sa valeur actuelle, parce qu'il n'a pas fait 100 points comme Kucherov. On va donner exactement ce qu'on a donné à Lane Hutson, qui est 8 ans, 8,85 millions. On va te donner ça. On va peut-être perdre au départ. On va gagner par la suite. C'est ce que nous, on est prêt à t'offrir à l'heure actuelle. Tout près de 9 millions pour les 8 prochaines années. Et je pense que Manstein va regarder à ça. Il va dire, bon, je sais pas. Peut-être que je vais gagner 2-3 ans. Peut-être qu'on va perdre après. Le gars, il va sortir de son contrat à 21 ans. Est-ce que j'ai envie qu'il sorte de ce contrat-là à 28-29 ans comme UFA? Qu'est-ce que je vais vouloir faire par rapport à ça? Si j'aurais mon point de vue à donner aujourd'hui, je pense que les Canadiens vont essayer de vendre la salade, n'iront pas plus que 9,5 millions sur 8 ans. C'est clair. Mais ce que je pense que Manstein, lui, de son côté, il serait possiblement beaucoup plus confortable avec un 3 ans à 7 millions par année. OK? Jusqu'à, on voit où le cap est rendu, s'il a fait 100 points dans la Ligue nationale, et là, tu le re-signes à 13, 14, 15 millions, qui est beaucoup plus d'argent. Donc, je pense qu'il va falloir que les Canadiens fassent beaucoup de mathématiques avec son agent pour être capable de le convaincre de signer à moindre argent pour une période de 8 ans tout de suite cet été.
Puis David, pour finir, McDavid qui n'arrête pas de montrer des signes de patience, il se bat. Lawler, Jarry, il n'y a rien qui va. Rien ne va bien. Il n'y a rien qui va bien. Draisaitl, il est blessé, il ne reviendra pas avant une série. Si les Oilers perdent rapidement en première ronde, là, est-ce que tu penses que même s'il va rester 2 ans après cette année, qu'on risque de voir Connor s'en aller avant la fin de ces 2 ans?
Oui, je l'ai déjà dit. Je ne pense pas qu'il va s'en aller cet été. Mais à moins d'un revirement de situation que Edmonton se remette à gagner, ce que je pense pas, ils ont trop de trous, ils ont plus de cap, ça marche pas. OK, je pense qu'ils vont les changer l'été après. Mais je pense que si ça finit mal, comme tu dis, Georges, il va déjà demander une transaction là. Et il va déjà dire, les gars, moi, je veux partir d'ici. Accommodez-moi le plus rapidement possible. On peut faire une saison de plus maximum. Envoyez-moi d'ici. Et la raison pourquoi je dis ça, elle est simple. La quantité d'argent que McDavid a laissé sur la table pour rester à Edmonton pour ces 2 ans supplémentaires, là, c'est le meilleur joueur au monde. Le gars, il peut avoir 20 millions de dollars par année. Est-ce qu'on est d'accord?
Ben oui.
Donc 20 millions, le gars, il signe à 8 millions ou 9 millions, peu importe combien il signe. Il perd tant de millions par année pour rester gagné, pour accommoder l'équipe à l'heure actuelle, dans le marché actuel. Il a perdu 8-9 millions par année. Donc, en réalité, c'est lui, il a investi dans ça et Edmonton ne livre pas la marchandise. Donc, lui, il va dire, je ne perdrai pas une scène de plus avec vous, les gars. Hey, David, sortez-moi d'ici.
David, en 10 secondes, c'est quoi le pourcentage de 1 à 100?
Pourquoi tu vas là?
Le pourcentage de 1 à 100 que s'il demande à être transigé, qu'il finisse avec le CH.
Oh, de 1 à 100?
Ouais.
Peut-être 10 sur 100?
Hey,
non, 10 mieux, sur 100, il y a
c'est mieux,
ouais.
C'est mieux
non,
que...
So you're telling me there's a chance.
Plus que chance, mais plus que chance.
Non, les Canadiens sont dans un autre... Ils pourraient faire cette transaction-là, mais ils auraient qu'à aller chercher le centre qu'ils ont besoin cet été avec Suzuki, oui. Ils ont l'équipe, là.
Les Oilers vont demander Demidov puis trois premiers choix.
Ils vont
oublier ça. Le Canadien n'ira pas se déshabiller, là. Ben non.
Ça me surprendrait. À moins que lui, il exige une transaction au Canada pour aller à Montréal.
Exact.
Je ne vois pas comment ça devrait.
Ouais. Merci, Vic.
Merci beaucoup, David. Bon match ce soir.
Merci, David.
Salut, David.
Bonne semaine, les gars. Bonne semaine. Au revoir.